La première,
13h-14h,
l'agence tourisme,
Walid et Marianne Périlleux.
La première, ravi de vous accueillir, c'est l'agence tourisme. Très très bon samedi, comme chaque samedi, vous le savez, nous sommes là pour vous faire découvrir tous ces beaux endroits en Wallonie, où il fait bon voyager, découvrir, où il fait bon se sentir bien. Bonjour Marianne.
Bonjour Walid, bonjour à tous.
Comment allez-vous en ce samedi?
Mais ma foi, c'est bien.
Eh bien écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Oui.
Aujourd'hui, on va prendre avec vous Marianne la direction du sud-est de la province de Luxembourg, entre Ardennes et Gaume, pour y découvrir un coin de nature qui fait rêver plus d'un.
Oui.
Un coin de nature, que dis-je? Une forêt même, cap sur la forêt d'Anlier aujourd'hui.
Et oui, c'est la plus grande hêtraie du pays. Elle s'étend sur plus de 7000 hectares. Et pour la situer, bien citons les communes par exemple de Neufchâteau, de Martelange ou encore de l'église qu'elle entoure. Il y a là en tout cas l'assurance de faire de magnifiques balades au plus près d'arbres remarquables et de rivières, au cours parfois sauvages, la Haute-Sure et la Rhule.
Oui, la Rhule qui traverse notamment Abbey-la-Neuve. C'est là que vous avez réalisé votre reportage, Marianne.
Avec l'un de ses habitants, Alain Thomas, qui m'a emmené y découvrir le parc communal du Châtelet et ses nombreux étangs, témoins du passé industriel de la région lié aux forges et donc à la sidérurgie. Un site qui est exceptionnel également pour sa biodiversité. Il n'est pas rare, Walid, d'y observer la cigogne noire, devenue l'emblème de la région, et ça aussi, ça fait rêver.
Ah, bien sûr, et vous l'avez compris, hein, la forêt d'Anlier, c'est le pays du slow tourisme, de la déconnexion, de la reconnexion à la nature aussi. Certains en ont d'ailleurs fait leur métier, c'est le cas de Gilles Van de Putin, avec qui nous parlerons en fin d'émission. Il est créateur d'expériences outdoor au sein de cet immense massif forestier. Alors, ce samedi,
on se détend.
Oui. Voilà, c'est le week-end, c'est le moment de se poser. On le fait pour vous, avec vous, dans l'agence tourisme. Bienvenue, c'est parti.
Imaginez une destination où tout est tout près de tout. Visite Wallonia, tout pour s'évader.
L'agence tourisme sur la première.
Cap donc ce samedi sur la grande forêt d'Anlier, et pour vous en parler, nous accueillons deux invités. L'une nous vient de la maison du tourisme Haute-Sure, forêt d'Anlier en Ardennes, c'est Marie-Claude Marchal. Bonjour à vous, Marie-Claude.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Super bien.
Merci d'être avec nous ce samedi. Quelle zone couvre votre maison du tourisme?
Alors, la maison du tourisme, c'est un triangle entre Bastogne-Arlon et Neufchâteau. Mmh. Et nous gérons 6 communes, donc qui sont Abbey, l'église, Neufchâteau, Vaux-sur-Sure, Fauvillers et Martelange.
On va revenir sur le nom aussi, hein, de votre maison du tourisme. La Haute-Sure, c'est...
La Haute-Sure, c'est une des rivières qui traverse le nord de notre territoire touristique.
Et Anlier?
Et Anlier, c'est le cœur de notre super belle forêt qui s'appelle Forêt d'Anlier.
Ah ben voilà.
C'est un village.
C'est un village.
Voilà.
Voilà.
La rivière La Sure, qui a également donné son nom au parc naturel créé dans cette région en 2001. Pour en parler, c'est son directeur, Donatien Liès, qui est avec nous en studio. Bonjour Donatien.
Bonjour Marianne, bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Alors, le territoire que couvre le parc naturel, c'est le même que celui que couvre la maison du tourisme, ou pas?
Alors, c'est pratiquement le même, sauf qu'il couvre aussi toute la commune de Bastogne.
Ouais.
Pour le reste, c'est exactement le même périmètre.
D'accord. Alors, il y a deux rivières, si j'ai bien compris, qui traversent votre territoire, donc la Sure, mais également la Rhule. Alors, est-ce que ces deux rivières sont différentes et est-ce qu'elles occasionnent des paysages différents?
Alors oui, totalement, parce qu'en réalité, on a la ligne de séparation entre le bassin du Rhin et celui de la Meuse sur
D'accord.
le territoire. La rivière Sure, elle appartient au bassin du Rhin et donc elle dessine une série de paysages ardennais dans la région de Fauville et Vaux-sur-Sure.
Et qui sont ?
Et qui sont des paysages de vallons très découpés avec pas mal d'agriculture, de pâturage. Et puis l'autre rivière, la Rhule, qui elle appartient au bassin de la Meuse et qui descend vers la Gaume et la Lorraine.
Oui, c'est un endroit juste sublime. Hein. Il faut pouvoir y aller et laissez vos smartphones dans vos poches. Prenez des photos mentales, ça crée des souvenirs. Vous êtes d'accord avec moi?
Tout à fait d'accord. Il y a des paysages absolument à couper le souffle, même si on n'est pas en haute montagne. Il y a des choses magnifiques à voir.
Voilà. Vous vous connaissez tous les deux?
On se connaît très bien. Oui.
On travaille.
C'est-à-dire que la maison du tourisme et le parc naturel collaborent régulièrement. D'accord. Ah ben on va commencer avec vous, Marie-Claude, avec ce qui définit la forêt d'Anlier. On a dit d'emblée que c'était la plus grande hêtraie du pays. Elle est donc plus grande, par exemple, que la forêt de Soignes.
Tout à fait.
Oui. Elle est grande comment ?
Ben, elle fait 7000 hectares, donc il y a déjà de quoi voir, et de quoi s'amuser, de quoi visiter.
Ouais, et quelles sont les caractéristiques justement de cette forêt d'Anlier ?
Eh ben, la forêt d'Anlier est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est composée à plus de 90% de feuillus, ce qui fait que vous pouvez venir toute l'année, le paysage est tout à fait différent. Mmh. Avant le débourrage des feuilles, vous avez une première floraison au sol, la lumière est différente en avril, en mai, en juin. Enfin voilà, vous pouvez revenir chaque mois. Il n'y a pas de souci. On a de quoi vous proposer d'autres choses.
Mais voilà, tout ça ressemble vraiment à un véritable paradis pour les promeneurs et les randonneurs. Les balades, c'est le gros atout touristique de la région, c'est ce que les gens viennent chercher, j'imagine.
Tout à fait. Donc les gens viennent pour une déconnexion et nous avons une proposition de plus de 100 balades, promenades balisées, qui vont de 3 km jusqu'à 20 km, donc un petit peu pour le goût de tous.
Et des balades thématiques
Des balades thématiques également. Mmh. Donc le parc naturel, justement, nous a fait des aménagements sur certains types de balades, comme par exemple à Fauvillers, au domaine d'Oisfagne, là sur 3 km, vous avez un équipement qui est vraiment destiné aux familles et qui est vraiment très chouette à faire toute l'année. Donc il y a des cabanes d'observation, il y a des panneaux didactiques, il y a une super plaine de jeux.
Brame du Cerf aussi, j'imagine.
Ah, ça c'est un must en forêt d'Anlier, Brame du Cerf. Ouais. Oui, donc ça c'est la seconde quinzaine de septembre.
Ouais, uniquement. Et puis il y a Maurice Grévis.
Et alors notre Maurice Grévis, qui est notre star local, puisqu'il est originaire de Rulle. Et donc Maurice Grévis est un gradmérien très célèbre qui nous a pondu le petit Grévis. Et que tous les anciens élèves connaissent pour avoir lu et relu ces différentes règles.
Grammatical,
merci Marianne.
Tiens, en tant que responsable du parc naturel, vous collaborez avec la maison du tourisme pour élaborer, construire, concevoir ces balades ?
Oui, tout à fait. Moi, je prends souvent l'image du secteur automobile. On est un petit peu au parc naturel, le bureau de conception d'ingénieurs qui imaginent un nouveau modèle. Et puis, on a absolument besoin du concessionnaire qui est la maison de tourisme qui va vendre ces modèles. Et donc, si on l'applique au cas des promenades, on conçoit des promenades thématiques. Il y a des biologistes dans mon équipe. Il y a des personnes qui sont compétentes dans le domaine du patrimoine, par exemple. Et donc, on crée des balades à thème. Et puis après, les personnes qui les vendent et qui sont en contact des touristes, ce sont nos amis de la maison de tourisme.
Mmh. Est-ce que ces balades sont aussi l'occasion, Marie-Claude, de découvrir, vous en parliez, Donatien, du patrimoine historique, industriel, religieux ?
Ah oui, tout à fait. Nous avons des balades qui sont tournées autour des forges, puisque c'est vraiment l'élément historique industriel de la région. Donc, toute la vallée de la Rulle, au XVIIIe siècle, était vraiment réputée pour la qualité de sa sidérurgie. Donc, il nous reste notamment de nombreux étangs qui sont les témoins de cette ancienne sidérurgie. Mais on a aussi une balade autour des anciens moulins. Il y a la villa gallo-romaine aussi à Majerois, qui est une des plus grandes villas gallo-romaines de Wallonie, qui a comme spécificité, malgré qu'elle est encore en cours de fouille, elle est ouverte toute l'année aux touristes et aux visiteurs. Donc vous pouvez en libre visite toute l'année découvrir ces anciennes pierres sur le site de Gallo-Romain.
En revanche, j'ai vu qu'il y avait pas mal de lieux, voire d'activités insolites sur votre territoire. A priori, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attend en allant dans cette région. Je pense par exemple au musée du téléphone à Petit-Voir. Alors ça, c'est aussi pas petit à voir, c'est vraiment beau à voir. Alors, c'est plutôt insolite. Racontez-nous cette histoire.
Oui, on a des petites pépites comme ça sur le territoire. Donc le musée du téléphone se trouve à Petit-Voir, commune de Neuchâteau. Et M. Tinès, qui est le fondateur, en fait, dans les années 1960, a été employé à la RTT, comme on disait, Régie Téléphone Télégraphe. Ouais. Et en fait, son premier métier était de distribuer les télégrammes à vélo.
D'accord.
Et donc, comme l'évolution du téléphone a été, comme on s'en doute, très rapide et assez intéressant, très vite, il s'est intéressé par cette collection. Et maintenant, il a plus de 1000 téléphones.
Ah oui.
Donc, on
peut voir. Comment ça se passe
donc ça, tout ça est intégré à son domaine privé. Mm-hmm. Et donc, sur rendez-vous, vous, vous pouvez visiter. Et Monsieur Tinet, c'est vraiment pas du tout avare en explication, histoire, en histoire. Il y a vraiment des petites pépites, des cabines téléphoniques.
Ah oui, donc c'est grand chez lui. Ah,
c'est vraiment très très chouette. Et donc ça, c'est petite pépite insolite à Petit-Voir.
Voilà, une collection de vieilles motos également, j'ai vu.
Oui, la collection de Monsieur Thierry, donc c'est la collection de vieilles motos. Ça, c'est dans un ancien garage. Donc déjà, le site en lui-même est vraiment fabuleux, parce que quand vous rentrez dans ce site, l'ancien garage, qui date des années 1950, on retourne vraiment tous en enfance et on est déjà parti dans un autre monde. Et il y a plus d'une centaine de motos qui sont exposées.
Oui. Des collectionneurs dans la région. Et alors, j'ai vu un événement tout à fait étonnant, très insolite. C'est le championnat de Belgique de ricochet.
Oui, donc ça
se
déroule. Oui, voilà, tout à fait. Ça se déroule là à Neuchâteau, toujours au mois de juillet. Ouais. Et donc ça va être la troisième édition ici en 2026.
Oui. Juste pour moi, parce que je vais du coup m'entraîner. Ouais. Combien de ricochets, le record?
Alors, combien de ricochets, ça je ne sais pas, mais c'est 70 mètres.
70 mètres, la distance.
Oui, voilà, la distance.
Ah, ça fait beaucoup de ricochets. Hein.
Voilà, ça fait beaucoup de ricochets.
Il va s'entraîner, effectivement.
Bah, voilà, il reste encore quelques mois, donc on peut commencer.
Bah, je vais venir m'entraîner.
La région de Neuchâteau qui se prête justement bien à la pratique d'activités sportives, parce qu'il y a un lac à Neuchâteau.
Voilà, il y a la vallée du lac qui est depuis quelques années vraiment bien dynamisée. Donc vous pouvez faire de la natation, puisque c'est un des seuls endroits, un des rares endroits dans la région où on peut nager dans le lac. Il y a effectivement du pédalo, du kayak et encore plein d'autres activités. Il y a notamment un tout nouveau skatepark qui a été inauguré l'année dernière, qui est vraiment très très chouette.
Moi je reste sur le ricochet, je veux obtenir mon titre. Des événements aussi à épingler, Marie-Claude, dans les prochaines semaines. J'imagine qu'il y a plein d'activités qui se mettent en place.
Il y a des activités tout le temps. C'est vrai que nos six communes sont vraiment très dynamiques et ont une structure associative très intéressante. Et la prochaine activité, c'est au mois de mai, nous avons notre deuxième édition du festival des balades.
Les balades guidées.
Balades guidées,
ouais,
voilà.
Donc
sur quatre jours, nous allons proposer différentes balades guidées thématiques, avec patrimoine, nature, il y en aura pour tous les goûts et spéciale famille aussi.
Voilà averti.
Mais oui, et dans le registre insolite, Marie-Claude, on peut ajouter aussi l'observatoire Centre Ardennes à Neuchâteau. Il y a des logements insolites là-bas.
Oui, tout à fait. Il y a des logements insolites et l'observatoire à Neuchâteau, c'est le seul observatoire en Wallonie qui est ouvert au public.
Qui est ouvert au public.
Voilà, donc sur réservation évidemment toujours, parce qu'ils ont aussi une mission scientifique au départ, donc ils ne sont pas toujours disponibles, mais c'est le seul observatoire en Wallonie qui est ouvert au public.
Tout à fait. On avait fait un reportage dans une autre émission d'ailleurs sur cet observatoire. Le musée de la Haute-Sure, j'ai vu plus petite maison d'ardoisier.
Voilà, ça c'est à Martelange, donc c'est vraiment une toute petite maison et qui depuis très peu de temps en fait est visitable en 3D maintenant.
Voilà, donc plein de choses à faire, plein de choses à voir. On rappelle donc le festival de ricochet les 20 et 21 juillet.
C'est déjà dans mon agenda. C'est dans mon agenda.
Walide à noter, festival de balade guidée du 14 au 17 mai. Mm-hmm. On rappelle bien sûr que vous avez un accueil touristique à Neuchâteau où tout le monde peut se présenter pour avoir toutes les infos.
Voilà, facile à trouver puisqu'on est au centre-ville et donc on est ouvert régulièrement, donc toute la journée, non-stop, de 10 à 18 heures.
Et un site internet capsuranlier.be.
Voilà, dans l'agence tourisme, on va continuer notre exploration au cœur de la forêt d'Anlier avec les actions et les missions du parc naturel. C'est tout de suite.
L'agence tourisme sur la première.
C'est donc avec vous, Donatien, qu'on continue de découvrir cette région du Luxembourg belge qui se trouve où d'ailleurs précisément? En Ardennes, en Gaume?
Alors c'est principalement en Ardennes, mais on a un petit morceau de Gaume dans le périmètre du parc avec la commune de Abbé.
Voilà, et le Grand-Duché de Luxembourg qui n'est pas loin. Il y a des collaborations, j'imagine, entre les deux Luxembourg?
Il y a des collaborations depuis plus de 20 ans parce que pour la petite histoire, les deux parcs naturels, il y a un parc naturel au Luxembourg qui porte le même nom que nous et qui a été créé quasiment en même temps et pour la même raison, à savoir que la rivière qui traverse la Belgique, la Sûre dont on a parlé, alimente le Luxembourg et son lac et constitue en fait le principal réservoir d'eau potable pour le Grand-Duché.
Ouais, mais on va revenir en quelques mots sur les missions du parc naturel Haute-Sure, forêt d'Anlier. Quelles sont justement ces missions ?
Alors les missions des parcs naturels, elles sont larges et c'est important de pouvoir le préciser pour que l'auditeur comprenne qu'il y a une différence fondamentale entre une réserve naturelle qui est un espace clos qui est juste réservé à la protection de la nature et un parc naturel qui est un grand territoire habité dans lequel on a plusieurs missions complémentaires. Bien sûr, la protection de la nature et de nos paysages, ça va de soi, mais c'est pas la seule mission du parc. Nous avons aussi une mission d'accompagnement des acteurs qui vivent dans le périmètre du parc, comme les agriculteurs par exemple, ou les opérateurs du tourisme, pour lesquels on doit apporter notre soutien.
Ouais, donc le tourisme fait donc partie de vos champs d'action, si je puis dire. Quel type de tourisme vous encouragez du coup ?
Alors il y a quelques années, on s'est doté d'un concept qui était le slow tourisme, qui à l'époque était assez innovant. Et dans cet esprit-là, le type de tourisme que l'on promeut sur le territoire, c'est un tourisme de nature, un tourisme familial, un tourisme qui est respectueux de l'environnement. Et un des objectifs qu'on poursuit aujourd'hui, c'est d'être labellisé, première région en Belgique en tout cas, labellisée charte européenne du tourisme durable.
C'est-à-dire ? Vous pouvez développer ?
Alors, c'est un label qui est décerné par l'Europe, par la Fédération Europarc, qui n'est accessible qu'au territoire déjà labellisé parc naturel et qui récompense ceux qui, parmi les parcs, engagent un processus avec l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique qui répond au concept du développement durable. Et donc on accompagne, on est en début de processus, mais on accompagne tous ces opérateurs vers un accueil de qualité, vers une réflexion sur l'impact de l'activité touristique au niveau local, etc.
Et environnemental, je suppose.
Et bien sûr environnemental.
Alors un domaine sur lequel vous travaillez, je le sais Donatien, ce sont les produits du terroir. Un peu bizarre, on ne s'attend pas spécialement à ce que ça soit un de vos fers de lance en réalité, les produits du terroir. Il y a notamment un projet de filière épeautre sur lequel vous travaillez avec les agriculteurs, voilà, on y arrive. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Ah, c'est une culture l'épeautre qui est extrêmement vertueuse comme on dit. Alors historiquement, l'épeautre était cultivé en Ardennes, y compris pour l'alimentation humaine, et puis ça a disparu au fil du temps, à tel point qu'on ne cultivait plus du tout d'épeautre. Les anciennes variétés n'étaient plus disponibles que dans des bibliothèques, des collections scientifiques de graines. Avec quelques agriculteurs du territoire et avec un centre de recherche agronomique, on a remis en culture de très vieilles variétés, on les a multipliées. Et puis, d'année en année, les producteurs ont semé, produit, transformé. Et aujourd'hui, on a une filière complète de production de farine, de pâtes, de bière, de biscuits. Et même plus récemment, un alcool, un esprit d'épeautre qui est produit sur le territoire.
Et donc, ça fait beaucoup de produits locaux dans vos régions. Hein. Fromage, viande aussi
Alors, on a toute une gamme de fromages qui ne sont pas encore très connus, mais qui sont absolument délicieux. On a pas mal de producteurs de viande. C'est une région à forte production bovine, effectivement.
Et on fait de la mozzarella, j'ai cru comprendre.
Il y a un producteur de mozzarella, à partir de l'aide Bufflon, effectivement, à Neuchâteau, Buffl-Ardenne, qui mérite aussi le détour.
Ça veut dire que bon, la forêt d'Anlier, c'est du slow tourisme, c'est une destination 100% nature, mais c'est aussi une destination gourmande.
Tout à fait.
Vous travaillez dessus.
On travaille dessus, et puis on a aussi pas mal de bières artisanales, bières locales qui sont produites sur le territoire, qui sont délicieuses.
Alors, la faune et la flore est aussi...
Moi, je salive pour le moment. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure
de la cigogne
noire, effectivement. On va parler de la faune et de la flore à présent. Il y a pas mal de particularités dans cette région. Quelles sont-elles ?
Mais ça a été un long débat à la création du parc pour se choisir une mascotte. On a longtemps hésité entre la loutre, la cigogne noire, certains parlaient du cerf, pour citer quelques espèces emblématiques. Et puis il y en a bien d'autres. Il est clair que parmi celles qui font l'objet de toutes nos attentions, ben, la cigogne noire, c'est finalement elle qu'on a choisie pour illustrer notre logo, qui est présente vu le grand massif forestier d'Anlier dans lequel elle peut nicher. Et puis l'abondance de zones humides qui sont autour du massif dans lequel elle peut s'alimenter.
Il y a le retour du loup aussi.
Tout récemment, effectivement, un couple de loups s'est installé en forêt d'Anlier. C'est vraiment tout récent. Et ça montre aussi qu'on a un territoire qui est accueillant pour la faune sauvage.
Alors, est-ce qu'il y a moyen, on a vu beaucoup d'intérêt dans la région, du slow tourisme, des produits du terroir, la faune, la flore. On peut découvrir tout cela par des randonnées au long cours, par exemple ?
Oui, bien sûr. On a un large éventail de promenades pédestres, notamment de promenades thématiques. 120 promenades qui sont accessibles sur le territoire. Il y a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les thématiques. Certaines sont des promenades plus dans le massif forestier, d'autres en périphérie, dans bordure de rivière. Il y a vraiment un très très large choix.
Mais une réflexion, allez-y.
Mais vous travaillez sur un projet de randonnée de plusieurs jours quand même.
Alors effectivement,
j'aimerais qu'on en parle
un petit mot. On est en train de travailler sur un grand tour de la forêt d'Anlier, donc qui serait un grand itinéraire pédestre que l'on n'est pas d'ailleurs le seul à faire. On travaille avec d'autres grands massifs forestiers et on voudrait pouvoir sortir ce nouveau produit touristique prochainement pour permettre une randonnée de plusieurs jours en fait sur le territoire et en particulier autour de la forêt d'Anlier.
Moi je me demandais s'il y avait une accessibilité, en tout cas une réflexion sur l'accessibilité aux personnes à besoins spécifiques.
Il y a une réflexion et on est en train de la mener de manière beaucoup plus appuyée puisque depuis quelques temps, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe Aurélie qui travaille sur la question de l'accessibilité à tous. Et on est en train d'aménager un très très beau site naturel dans une petite forêt, l'étang de Thibessart, qui va être entièrement aménagé pour l'accueil des personnes, notamment celles qui ont des difficultés de mobilité. Donc on installe des caillebotis, un parking sécurisé pour leur permettre une immersion en pleine nature.
Oui. Alors c'est vrai qu'on a parlé de balades à pied, est-ce que l'offre vélo est aussi importante dans la région par exemple? On sait que le vélo a la côte pour les touristes.
Ah oui, le vélo a de nouveau la côte depuis l'arrivée du vélo électrique et donc en province de Luxembourg et dans la forêt d'Anlier comme un peu partout en Wallonie maintenant, nous avons le réseau Point Neu qui fonctionne vraiment super bien et qui permet à tout un chacun de faire une randonnée vélo en fonction de ses envies, donc choisir son nombre de kilomètres et le parcours souhaité.
Très bien, voilà, beaucoup de choses à faire dans la forêt d'Anlier, au sein du parc naturel, bien évidemment, qui sera bientôt en fête, j'ai vu ça.
Alors, le premier week-end d'octobre, voilà.
On va le noter dans l'agenda plutôt.
Mais le temps passe tellement vite aujourd'hui. Mais le premier week-end d'octobre, effectivement, nous allons faire la fête en partie à Thibessart, donc là où nous allons finaliser des aménagements pour les personnes ayant des difficultés de mobilité. Ce sera le moment de leur présenter tout ça, effectivement.
Il y a des nouveaux observatoires qui ont été créés également au sein du parc naturel. Il y a des itinéraires équestres aussi qui traversent la forêt d'Anlier. Toutes les infos sont disponibles sur le site parcnaturel.be ou via un autre site dont j'avais aussi envie que l'on parle aujourd'hui, c'est partageonslaforêt.be. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est le résultat d'un travail collaboratif assez inhabituel, puisqu'on a eu l'occasion de travailler avec les chasseurs, avec les responsables du secteur du tourisme et avec les gestionnaires de la forêt. Donc c'est une association qu'on avait rarement vue autour d'une même table.
C'est vrai.
Des chasseurs, des promeneurs et des naturalistes. Et tous ensemble, on a décidé notamment de créer un site qui permet aux touristes de s'assurer, de faire un choix de promenade, mais de s'assurer que la promenade qu'ils ont choisie ne va pas être, entre guillemets, rendue inaccessible par une activité de chasse. Et donc, si on va sur ce site partageonslaforêt.be, on peut sur la carte choisir un lieu de promenade, un circuit de promenade et avoir avec certitude l'information est-ce qu'il y a chasse ou est-ce qu'il n'y a pas chasse sur cette promenade.
Vaut mieux se renseigner avant, effectivement, surtout en période de chasse. Et vous disposez également d'un accueil touristique au sein de la maison du parc naturel. Mais là, elle n'est pas à Neuchâtel, elle est ailleurs.
Oui, tout à fait. Elle est à Martelange. Donc c'est un ancien moulin qui a été entièrement restauré il y a maintenant une quinzaine d'années, qui occupe plusieurs fonctions. Mais une des fonctions qu'on a voulu lui dédier, c'est un accueil des touristes. D'abord pour lui expliquer ce qu'est un moulin. Donc la scénographie, elle tourne autour du moulin. Et puis, depuis peu de temps, on a pu collaborer avec l'Office de tourisme local qui maintenant s'est installé à la Maison du Parc et permet un accueil des touristes 7 jours sur 7.
À Martelange.
Allez, l'agence tourisme qui se poursuit avec, pour se détendre aussi dans ses promenades, un peu de musique. Et on va mettre en lumière aussi les artistes de la Fédération à la Bruxelles avec Dina Lewis and the Soul Caravan. Voici Middle of the Bed. RTBF la première, un Liégeois, Antoine Dawans, qui a récemment créé ce groupe qu'on vient d'entendre. Dina Lewis and the Soul Caravan avec une chanteuse et 8 musiciens. Du bonheur pour les oreilles. C'est ça aussi, RTBF la première, c'est mettre en lumière les artistes de notre belle fédération Wallonie-Bruxelles. Et on continue à se promener, nous, dans l'agence tourisme, tout de suite avec une petite balade du côté du reportage de la semaine avec Marianne.
L'agence tourisme sur la première.
Place au reportage de la semaine dans l'agence tourisme avec vous, Marianne, un reportage qui nous emmène donc à Abbey-la-Neuve, le long de la Rule, pour y découvrir le riche passé industriel de la commune.
Voilà, on est donc en Gaume. Mais oui, parce que jadis, la vallée de la Rulle était jalonnée de forges, Marie-Claude en a parlé tout à l'heure, de barrages, d'étangs qui témoignent effectivement de la naissance et du développement d'une industrie sidérurgique importante dans la région. De ce riche passé, il ne subsiste plus grand-chose aujourd'hui, mais quand même d'anciennes maisons de maîtres de forges, par exemple, et des étangs qui sont assez nombreux.
Voilà, quelques balades qui partent sur les traces de ce passé industriel, et c'est l'une de ces balades, au départ du parc communal du Châtelet à Abbey, et le long de ces étangs, que vous nous proposez de marcher avec vous, Marianne.
Mais oui, parce que c'est une balade vraiment idéale pour les familles. Je ne l'ai pas fait toute seule, bien évidemment. Il me fallait trouver quelqu'un pour me la raconter, cette histoire. Et qui de mieux qu'un passionné d'histoire locale pour m'accompagner. Ici, en l'occurrence, c'est Alain Thomas, c'est son nom. Il édite à Abbey, la Gazette Abbat dans le temps. Ça vous donne une idée de ce que ça veut dire, Abbat dans le temps?
Dans le temps.
Abbé dans le temps, voilà, il est passionné du passé de son village. Alors dans le temps, ben justement, je vous propose d'y plonger, et ce depuis la Rulle, car c'est en longeant cette rivière que finalement tout s'explique, et l'histoire et la balade.
Alors c'est une rivière qui marque la région et qui a marqué son histoire. Le bruit qu'on entend, c'est une cascade. On va en voir plusieurs sur le parcours et c'est vraiment ce qui fait aussi un intérêt pour les touristes. Mais ce sont des cascades qui ne sont pas naturelles. Elles sont artificielles et c'est lié au passé de notre village, aux forges qui sont venues s'installer au XVIe, XVIIe siècle et qui ont profité de la force motrice de la Rulle, qui a la particularité d'avoir un débit assez élevé en toute saison, même en été. Et évidemment, c'était très intéressant pour les industriels de pouvoir utiliser les forces de la nature.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous me montrez? Un petit panneau aussi sur la gauche, voilà, qui va renseigner les touristes que je suis sur la flore.
Donc, le parc qui était privé est devenu public et on a essayé évidemment de le mettre en valeur de toute une série de choses. On ne l'a pas vu là-bas, mais il y a un petit restaurant, un bar qui est là, il y a les terrains de tennis qui sont là. Mais ceux qui aiment la nature vraiment et qui ont envie de la découvrir, et s'il y a peut-être des citadins parmi vos auditeurs, s'ils viennent ici, ils vont non seulement être dans un milieu naturel avec l'eau et la forêt, mais évidemment avec les animaux, et il y a tout un parcours sur la flore. On voit des petits panneaux ici qui nous expliquent, c'est principalement du feuillu qu'on va découvrir ici, des hêtres et des chênes, mais le parc aussi, par exemple juste en face là-bas, il y a un hêtre qui est plus de centenaire, un hêtre pourpre qui est magnifique, il y a des tilleuls, et vous voyez tout le long du parcours, ici c'est tous les 10 mètres, eh bien, il y a une espèce de mini arboretum, si vous voulez, qui vous présente les essences de la région, et on aperçoit là-bas près du pont, vous voyez les photos.
Oh oui, je vois.
Où on voit un sanglier, une laie avec ses marcassins. Donc il y a aussi, à côté de la nature réelle, un très beau parcours à faire, c'est découvrir les photos du club de photos ici de Abbé. C'est tous les animaux du parc qui sont là, à côté de vous, quand vous marchez.
Eh bien, à propos de marcher, c'est ce qu'on va faire. Alors ici, nous sommes, Alain, à hauteur du premier étang.
Voilà.
Étant donc artificiel, faut-il le dire?
Artificiel comme tous les autres, puisque les hommes ont barré la rivière. On vient d'entendre le bruit de la chute qui est là. Et on voit là-bas à l'arrière-plan, vous voyez, c'est très joli aussi, la vue sur le château, qui était une ancienne maison de maître de forge, qui a été transformée. Par contre, dans ce côté naturel qu'on voit ici, on ne se rend pas compte que sous nos pieds, il y a des mètres cubes de scorie. Et il y avait là toutes les industries du fer qui étaient installées. Donc si on voit la taille du château, vous multipliez par 4 ou 5 le nombre de bâtiments qui ont disparu, qui ont été complètement arasés. Et là, c'était des industries du fer. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont implantés ici? Ils ont trouvé la force motrice, sans doute, avec l'eau. Mais ils avaient la forêt, et là on est déjà dans la forêt, où ils venaient retirer ce qu'on appelle le charbon de bois.
Ouais.
Et on verra tout à l'heure qu'il y a des panneaux explicatifs de la technique pour faire le charbon de bois. Et le minerai était apporté de toute la région. On les amenait ici et ces usines-là ont vraiment transformé le village de Abbé, ce qui explique qu'il y a des anciennes bâtisses qui sont intéressantes à voir dans le village aussi, des maisons des maîtres de forge. Et ils ont donné du travail à toute une série d'ouvriers qui étaient soit de Abbé, soit des ouvriers qui ont été importés, disons-le comme ça, de la région du Hainaut.
Mais qu'est-ce qu'on faisait des minerais extraits?
Alors le minerai qui était extrait, c'était de la fonte. C'était alors une fonte qui n'était pas de très très bonne qualité, même si le fer était réputé. On l'appelait le fer de Abbé. Il avait un nom et on appelait les gens de Abbé les gens du rivage. Et ce fer brut, cette fonte, est exporté vers Liège, où il y avait toutes les clouteries et tous ceux qui faisaient le fer pour la marine marchande, et notamment la marine marchande hollandaise, ce qui fait que les produits fabriqués étaient ici, voyageaient dans le monde entier.
Oui, Donatien, on l'entend hein, dans cette balade au départ du parc communal du Châtelet, qui est juste magnifique. C'est pour vous en tout cas l'une des balades emblématiques de la région, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et on y a consacré pas mal de temps et d'énergie et de moyens, puisque pour nous, cet espace est vraiment la porte d'entrée vers la grande forêt d'Anlier. C'est un endroit qui est fort apprécié par les gens de la région et par les visiteurs, par les touristes. Et donc, tout récemment, on a fait toute une série d'aménagements pour permettre la découverte du patrimoine forestier, de la géologie et puis aussi de l'aspect zone humide, puisque comme cela a été dit, il y a plusieurs étangs.
Oui.
Et on l'a fait de manière un peu originale, puisqu'on a fait intervenir aussi des artistes qui ont créé des œuvres qui représentent une loutre, une truite, etc. Donc tout le long du parcours, on peut découvrir aussi une libellule, une magnifique libellule au milieu de l'étang, qui a été faite avec du matériau recyclé. C'est vraiment un chouette endroit.
Mais je vous propose en tout cas de poursuivre, Donatien, cette balade. Alors, pour rappel, donc, elle longe les étangs artificiels créés par l'homme pour les besoins de cette industrie qui s'est développée précédemment. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et c'est forcément toute une biodiversité qui s'y déploie. Donc là, on a dépassé le premier étang, Alain.
Voilà, et on est ici à la pointe, qui est intéressante, parce que vous avez vu, il y a un barrage, on a les castors qui sont revenus. Le barrage a détourné la rivière, donc on se retrouve avec deux bras de rivière ici, et qui vont se rejoindre sous le petit pont en bois. Donc il y a vraiment à chaque fois des choses intéressantes à voir au point de vue nature. Et ici, on est sur des panneaux pédagogiques, de nouveau, didactiques, comme vous voulez, qui rappelle la forêt d'Anlier, une forêt 5 étoiles. Et on est ici devant la plus grande hêtraie de Belgique, ce qui est rappelé là. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le passé de AB avec les forges, on voit le nombre de forges qui étaient implantées. Il y a un petit panneau, comme ça on peut voir tous les étangs qu'on peut découvrir à pied. Je vous ai dit, il y en a en amont, mais il y en a aussi trois en aval. Il y a aussi une grande cascade naturelle. Donc sur Abbé-la-Neuve, si des gens veulent venir, ils peuvent passer vraiment plusieurs heures, plusieurs jours en balade.
Vous êtes un bon ambassadeur de votre village.
Ah ben, moi, j'aime mon village, j'aime la nature ici qui est. Donc si j'arrive à le faire passer, tant mieux. Et alors, on a une petite histoire de la grande forêt et on va le voir là sous l'abri. Il nous montre comment était façonné le charbon de bois. Les passionnés peuvent encore trouver des aires de faulte en forêt, c'est-à-dire des grands ronds en forêt qui sont restés où les bûcherons faisaient du charbon de bois. Donc en entassant des blocs de charbon et en les laissant charbonner pendant plusieurs jours. Et puis on ramenait tout ça par des charrois ici aux usines.
Mais donc le minerai, le fer n'était pas extrait ici forcément, le fer venait d'ailleurs.
Alors le fer venait de toute la région de la Gaume, mais venait de la région d'Allanzy, puis on a été le chercher un peu plus tard. Il y a une petite anecdote qui n'est pas certaine au niveau de tous les historiens, mais que le nom de la Gaume vient de famille de Abbé-la-Neuve, les Gaumins, les Gaumetés. Il y a toujours ici une famille, Fernand Gaume, Albert Gaume, la famille Gaume ici. Et on dit que c'est justement ceux qui charriaient tous ces matériaux, mais à la fois le charbon de bois et tout ça, qui avaient un langage particulier. Hein, on a un patois local. Et puis les charretiers qui criaient évidemment, qui ont sillonné ça et qui auraient donné le nom à la Gaume. Donc les industries ici avaient du personnel qui travaillait, mais évidemment, comme pour toutes les grandes entreprises maintenant avec les camions, à l'époque, eh bien, c'était des chariots qui sillonnaient à peu près toute la région ici.
J'ai vu tout à l'heure un caillebotis de l'autre côté de la rivière.
On le voit bien d'ici. Alors ça, c'est aussi dans le cadre du parc naturel. C'est superbe à passer. C'est-à-dire qu'on va enjamber la vallée là-bas en passant sur un caillebotis. On le refera tout à l'heure. Et ça nous permet en tout cas de voir ce que c'était qu'une région un peu plus sauvage, puisqu'on va enjamber une prairie humide. Alors, prairie humide, elle est humide à peu près toute l'année maintenant, mais c'est là que la Rulle, autrefois avant d'être canalisée, se déversait. Alors, on parlait d'inondations tout à l'heure, il y en avait peu à l'époque, puisque la Rulle avait une large vallée pour se permettre de se dégorger avant d'arriver dans le village. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'il y a des dessins, il y a une faune aussi particulière. Et alors, en été, les papillons, les libellules, tous les insectes sont là.
Et la cigogne est noire ?
La cigogne noire, on peut parfois la voir s'arrêter, elle survole. Alors c'est impressionnant parce qu'on voit l'ombre au sol, hein, on voit passer quelque chose, on se demande ce que c'est, on relève la tête et on voit passer ce grand oiseau-là. Sinon, ce qui est fréquent ici, ce sont les aigrettes et les hérons, ça, on les voit fréquemment.
Voilà, des mots forcément qui nous plongent dans cet univers qu'on vous invite à visiter, à aller voir de vos propres yeux. Et donc pas mal de choses à voir au cours de cette balade, Marianne.
Mais oui, des choses à voir et partout des temps, vous avez entendu.
Ah oui, la pluie, avec toutes gouttes de pluie, oui. C'est pas ce qui nous empêche de prendre du plaisir. bien.
Mais non, tout à fait. Des choses à lire, des choses à faire, car il y a sur le parcours, en plus des panneaux didactiques, effectivement plusieurs modules de jeux pour les enfants. Ils peuvent vraiment s'amuser. Je vous la conseille, cette balade. Elle est vraiment très très chouette à faire en famille. Je la déconseille toutefois peut-être aux personnes à mobilité réduite. Alors si vous la poussez un petit peu plus loin, cette balade, Marie-Claude, je me tourne vers vous, elle permet de rejoindre un autre site très important dans la région sur le plan touristique. C'est le site du Pont d'Oie, dont on n'a pas encore vraiment parlé, avec le fameux château du Pont d'Oie. Il y a là aujourd'hui l'ancien château, des logements, des restaurants. C'est un atout important pour vous, le Pont d'Oie?
Ah oui, c'est vraiment un centre touristique en tant que tel. Et avec les aménagements du parc réalisés, effectivement, il y a un nouveau chemin qui relie maintenant le parc du Châtelet au hameau du Pont d'Oie, qui permet de rejoindre le hameau sans passer par la route comme c'était le cas dans le temps. Et donc, le Pont d'Oie, en fait, a été racheté fin des années 50 par Pierre Nothomb, qui était un homme, un politicien et homme de lettres, et qui avait fait à l'époque déjà un haut lieu culturel. Mmh. Et ici, maintenant...
Littéraire, notamment.
Littéraire. Et donc, Pierre Nothomb est en fait l'arrière-grand-père d'Amélie Nothomb, qui est actuellement un peu plus célèbre que Pierre Nothomb. Et donc, nous avons effectivement un restaurant, un hôtel, chambre d'hôte et gîte sur le lieu. Mm-hmm. Et aussi ce sublime étang du Pont d'Oie qui nous amène vraiment à la porte d'entrée de la forêt d'Anlier.
Mais très, très bel endroit, vraiment.
Ouais, magnifique. On l'a dit, la forêt d'Anlier est une destination 100% nature. On va y rester d'ailleurs, dans cette belle nature. On va même s'y immerger avec un autre passionné. On va parler pêche, notamment. Et c'est tout de suite dans l'Agence Tourisme.
La première. L'Agence Tourisme. Marianne Périlleux et Walid.
C'est Fauvillers que nous rejoignons maintenant pour parler immersion, expérience, gibier et pêche au cœur de la forêt d'Anlier. C'est avec Gilles Van de Put, fondateur de Southern Experience, que nous le faisons. Gilles, qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour à vous, Gilles.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous ce samedi ?
Ça va super.
Vous êtes natif de la région et vous allez d'abord nous aider à mieux comprendre comment vous est venue cette idée de partager votre passion pour la forêt.
Simplement, mais depuis que je suis vraiment tout jeune, donc vers 6 ans, j'ai commencé déjà un peu à m'initier à la pêche autour des étangs, des rivières, et puis en grandissant, étant un véritable amoureux de la nature, de tout ce qui constitue le milieu halieutique et aussi bien forestier. Mmh. Je me suis dit qu'il fallait que je partage cette passion avec un maximum de personnes et de la meilleure des manières possibles.
Commençons par le début. Ce que vous proposez, je le sais, et d'ailleurs toute l'année, c'est l'observation du gibier. Mais encore, avec quel objectif ?
Oui, tout à fait. Donc toute l'année, je donne la possibilité aux participants de mes expériences de découvrir les bonnes techniques en fait d'approche, de camouflage et d'observation du gibier. Donc mon but est vraiment de donner des outils concrets aux participants pour qu'ils puissent après leur faire eux-mêmes et en profiter du gibier pleinement.
Il y a des ruchers aussi en lisière de la forêt où vous y sensibilisez les gens qui font appel à vous.
Oui, exactement. Donc c'est aussi une activité que je propose. Donc la découverte de l'apiculture des abeilles, c'est un monde complètement fascinant et tellement important pour la planète que c'est possible de découvrir ça. On enfile la tenue d'apiculteur, on ouvre une ruche ensemble et j'explique un peu le contenu de la ruche en elle-même.
Ouais, effectivement, l'un des gros atouts de la région aussi, et c'est la pêche. Alors la pêche, un domaine que vous connaissez bien, je crois.
Oui, en effet. Donc la pêche, oui, vraiment, que ce soit aussi bien en eau vive, dans les ruisseaux et rivières que dans les étangs, il y a vraiment un grand nombre de possibilités autour de la forêt d'Anlier, que ce soit la recherche du carnassier, du blanc, de la carpe, de la truite. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser à la pêche par chez nous. Oui.
Ouais, effectivement, il y a une pléiade, et vous l'avez dit, vous venez de les évoquer, ces pêches, tout ça, c'est autour de l'étang du Châtelet, c'est ça ?
Oui, donc tout à fait. Je fais certaines en fonction de l'espèce recherchée en fait et de la technique que les participants veulent tester. Mmh. On va soit au Châtelet ou alors dans des rivières aux abords aussi dans le parc naturel Haute-Sure Forêt d'Anlier, la Sure notamment qui passe tout près, qui est intéressante aussi. Donc c'est vraiment en fait au cas par cas en fonction des besoins et des désirs des participants.
Alors ce qui est unique dans la région, Gilles, c'est la pêche nocturne à la carpe. Voilà, oui. Ça ne se fait que là, paraît-il. Alors, en quoi ça consiste ?
Alors, dire que ça se fait que là, c'est,
non, c'est
beaucoup
pas vrai.
Dire, mais c'est vrai que c'est vous avez raison dans le sens que c'est assez rare, en fait, d'avoir des accès comme ça publics qui permettent de le faire, autant pour moi. Mais oui, il y a la possibilité à Bellaneuve, sur l'étang de Bologne notamment, de pouvoir pêcher la carpe de nuit. Donc, c'est vraiment une pêche de préparation très particulière qui permet généralement de prendre des beaux poissons dans des conditions, en plein milieu de la nuit, se faire réveiller par un poisson, c'est toujours agréable pour.
Mais ça consiste en quoi exactement ? C'est accessible à tout le monde ? Il faut un matériel particulier ?
Je dirais que c'est accessible à tout le monde, pas vraiment, parce que c'est quand même un matériel assez poussé, assez précis, qui coûte quand même un certain budget. On commence rarement par la pêche à la carpe.
D'accord. Donc on commence par quoi ? Alors la pêche à la truite ?
Ouais, voilà, à part chez nous, je pense que l'idéal, c'est de commencer soit par une pêche au blanc, au cou, donc vraiment en étang, ou alors la pêche à la truite qui est quand même vraiment répandue dans nos régions.
Donc ça veut dire qu'on peut vous contacter, vous proposer des activités à la carte. Si je veux par exemple aller avec ma famille faire, un après-midi de pêche, je vous appelle.
Oui. Oui, voilà, tout à fait, avec plaisir. C'est tout à fait, quand vous voulez, c'est tout à fait possible. Donc voilà, à partir d'une demi-journée, donc de 4 heures, je propose des activités, immersives en pleine nature, que ce soit la pêche ou les autres que nous avons évoquées juste avant.
J'avais quand même une petite question encore sur le gibier, parce qu'on parle du gibier en forêt d'Anlier, ok, mais quel gibier est-ce qu'on peut observer ?
Il y a du petit gibier, il y a évidemment le lièvre, puis il y a des plus grands gibiers, on peut voir cerf, sanglier, chevreuil. Le loup est arrivé il n'y a pas longtemps, donc qui n'est pas considéré comme gibier, mais qui est observable aussi. Et puis évidemment, tout ce qui est, il y a plein d'oiseaux, il y a vraiment une multitude. La faune est très variée dans la forêt d'Anlier, il faut juste prendre le temps d'ouvrir les yeux et d'observer.
Et de s'immerger visiblement avec vous. Toutes les infos pour celles et ceux que cela intéresse sont sur votre site southernexperienceodoo.com.
Merci en tout cas à vous Gilles d'avoir été des nôtres et puis on vous dit à très vite pour une petite partie de pêche.
Ouais, j'espère bien, au plaisir de vous accueillir.
Avec plaisir, merci en tout cas à vous, très bon samedi. C'est déjà la fin de cette émission. Une toute dernière question, tiens, Marie-Claude et Donatien, pour conclure, que dire en une phrase pour convaincre nos auditeurs, auditrices de découvrir la forêt d'Anlier ?
Ah moi je dirais que la forêt d'Anlier a quelque chose de rare à vous offrir, c'est le frisson du vrai.
C'est beau ça, le frisson du vrai. C'est
magnifique.
C'est un beau slogan, c'est pas mal, je note. Et vous Donatien ?
Moi j'ai presque envie de paraphraser, au plus que tu y goûtes, au plus que ça te goûte, venez et vous allez être conquis, vous reviendrez.
En tout cas n'hésitez pas à consulter l'article qui accompagne cette émission via notre site web et l'appli RTB Factu, une émission que vous pourrez bien entendu réécouter sur RTB Fovio. Marianne, on se dit à la semaine prochaine.
Mais bien sûr.
Merci en tout cas pour cette petite heure passée avec vous. Restez sur RTB la première, dès 14h les infos, dans la suite c'est Kiosque qui vous accompagne avec Cindy Aizarali, mais pour l'heure un peu de musique et de la belgitude avec Joshua et Ekimoz.